Bonjour Laurent Saint-Martin.
Bonjour Frédéric Rivière.
Le projet de loi de finances 2021 va être présenté ce matin en Conseil des ministres. D'un mot pour commencer sur votre fonction de rapporteur général du budget, comment peut-on la définir? Est-ce que vous êtes en quelque sorte l'interface entre le gouvernement et les députés?
Oui, j'utilise l'expression de courroie de transmission, effectivement, puisque vous êtes celui qui va donner votre avis sur chaque article, et sur chaque amendement de ce texte. Donc il faut effectivement être en lien permanent avec le gouvernement pour essayer de négocier, pour faire avancer le texte. Et puis vous êtes en lien évidemment avec votre propre majorité, mais pas que. Vous devez aussi avoir une relation qui se construit avec les oppositions pour que finalement le texte qui soit voté à la fin soit le plus amélioré possible, le mieux amendé possible. Et donc vous êtes un petit peu le garant pour le Parlement de ce texte.
Donc vous êtes tantôt courtisé, tantôt sermonné.
Oui, c'est-à-dire que vous devez avoir certaines capacités
à... Courtisé par les députés, sermonné par le gouvernement, on peut dire ça schématiquement.
Non, parce que le gouvernement est responsable devant le Parlement.
Oui, je veux que le texte reste le sien à la virgule près, en principe.
Oui, mais ce sont les députés qui votent les textes. Moi, je dis toujours que le Parlement est bien celui qui vote l'impôt et qui vote la dépense publique. Donc le gouvernement propose et le Parlement vote. Évidemment, je suis député de la majorité, donc c'est en bonne intelligence avec le gouvernement, notamment avec d'excellentes relations que je continue d'avoir avec le ministre du budget, Olivier Dussopt, que tout cela se fait.
Alors, ce projet de loi de finances est évidemment très particulier dans le contexte sanitaire. Il va intégrer le plan de relance de 100 milliards d'euros. Avec l'épidémie de coronavirus qui joue les prolongations et qui s'aggrave même de l'avis de nombreux scientifiques, est-ce que ce plan de relance va suffire tel qu'il a été conçu ou est-ce qu'il va devoir être modifié, réajusté?
Ce qui est vrai, c'est qu'il faut beaucoup d'humilité quand nous présentons aujourd'hui des mesures aux Français. Ce plan de relance 100 milliards d'euros, il est sans précédent, il est 4 fois plus important que le dernier que nous avons eu lors de la crise de 2008, parce que nous avons effectivement une crise totalement inédite. Je crois qu'il est bien calibré à ce stade. Mais jamais je ne vous dirai à votre micro que ce que nous faisons est totalement définitif et que les chiffres que nous présentons, inutile de revenir dessus un jour. Non, par définition, la crise sanitaire, nous ne savons pas exactement comment elle va évoluer. Donc par définition aussi, les mesures qui sont prises en face sont susceptibles d'évoluer. Aujourd'hui, nous calibrons au mieux par rapport à ce que nous connaissons de la crise et sanitaire. Et économique et sociale.
Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il a été conçu dans un contexte où on ne s'attendait sans doute pas à ce qu'il y ait cette prolongation de la crise?
Si, parce qu'on nous disait depuis de longues semaines qu'il y aurait une deuxième vague. On ne savait pas sous quelle forme elle allait arriver. Mais ce que nous faisons là, c'est préparer la France de demain. Ce n'est pas seulement répondre à l'urgence de la crise. Quand nous investissons 2 milliards d'euros dans le plan hydrogène, nous investissons dans la France de l'avenir, dans les nouveaux emplois que cela va créer. Donc ce plan de relance, c'est pas seulement mettre des rustines que la crise a pu créer comme difficulté, c'est aussi investir, préparer l'avenir. Et ça, c'est extrêmement important que les Français entendent bien qu'il y a une différence entre venir en aide dans l'urgence, nous le faisons depuis évidemment le début de cette crise, et puis investir dans l'avenir, c'est-à-dire préparer une France plus forte, plus robuste, plus compétitive demain.
Les nouvelles mesures qui sont prises là à propos des bars et des restaurants à Marseille, où c'est la fermeture complète, à Paris où c'est la fermeture après 22 heures, vous ne redoutez pas que ça porte un nouveau coup à l'économie ?
Il y aura des mesures de soutien qui doivent être faites auprès des restaurateurs, auprès de tous les professionnels qui sont empêchés administrativement d'exercer pleinement. Vous savez, on appelle à ce que tout le monde le fasse en responsabilité. Les mesures qui sont prises, elles sont pas là pour enquiquiner les restaurateurs marseillais ou guadeloupéens.
Ça, personne
elles
ne le dit, mais en revanche, la question qui est souvent posée, c'est la question de la cohérence des actions.
La cohérence, c'est que nous sommes en soutien permanent avec tous ceux qui doivent freiner leur activité pour des raisons sanitaires. Nous l'avons fait depuis le début, nous continuerons à le faire. Les restaurateurs marseillais seront évidemment accompagnés, et même de façon plus forte que précédemment, puisque le Premier ministre l'a annoncé, le fonds de solidarité va passer de 1500 euros mensuels à 10 000 euros mensuels. Donc que nous changeons aussi sur l'accompagnement auprès de ces professionnels. Mais que les choses soient claires, moi je comprends une certaine part de leur désarroi. Vous redémarrez votre activité, puis on vous redemande de la freiner à nouveau. C'est très compliqué pour ces professionnels-là. Moi je mets beaucoup d'empathie dans mon propos envers eux, parce que je comprends très bien leurs difficultés. Mais on demande collectivement à ce que chacun entende bien que la priorité doit rester la santé des Français, et l'État sera là pour les aider économiquement, pour éviter que la perte de chiffre d'affaires ne leur soit fatale.
De quelle mesure du plan de relance attendez-vous les effets les plus rapides et les plus forts?
Alors, il y a plusieurs volets du plan de relance qui doivent être activés très très vite. Ouais. D'abord, le fait que notre économie doit vraiment devenir beaucoup plus verte demain. C'est pour ça que je parlais de l'investissement dans le plan hydrogène, mais pas que. Quand on fait de la rénovation thermique de tous les bâtiments de France en même temps, à hauteur de 7 milliards d'euros, c'est un plan absolument massif. Donc, notre économie, après la crise, elle doit être définitivement tournée vers l'écologie. Il y a la compétence, la formation sur laquelle on doit aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Et je pense notamment à ceux qui sont un peu éloignés de l'emploi depuis trop longtemps. L'embauche des jeunes, on doit avoir des résultats tout de suite. Et vous savez quoi? On en a, puisqu'en fait, on a déjà voté la mesure dans le dernier texte rectificatif de juillet. Donc, les mesures de prime à l'embauche pour les jeunes, ça doit être immédiat. Les mesures pour la culture, ça doit être immédiat. Les mesures pour la compétitivité, c'est-à-dire la baisse des impôts de production pour les entreprises, pour qu'elles puissent relocaliser des emplois industriels dans notre pays, ce doit être immédiat. Donc, nous avons 2 ans. Ce qui est très court en temps d'action.
Oui, parce que l'objectif, c'est de retrouver le niveau de croissance.
Nous avons 2 ans pour retrouver un niveau de prospérité, non seulement équivalent à avant crise, mais avec des nouveaux emplois qui soient plus pérennes que ceux d'avant la crise.
Et pour ça, il faut de la confiance.
Pour ça, il faut de la confiance.
Le Premier ministre, lorsqu'il a présenté le plan, disait « J'appelle les entreprises à embaucher, j'appelle les ménages à consommer et investir plutôt que d'épargner ». Mais encore une fois, pour ça, il faut de la confiance. Et vous avez l'impression que la confiance peut revenir dans le contexte que nous connaissons?
Ce que nous faisons avec la présentation de ce plan de relance, ouais, c'est un appel, effectivement, à l'investissement, à la confiance, à la consommation, bref, à reprendre une vie optimiste. Ce qu'il faut, c'est que maintenant, chacun joue son rôle. Un ménage, un consommateur, un investisseur, un entrepreneur. Il faut que chacun remette la machine France en marche. C'est ça qui fonctionne. Il faut absolument que nous mettions du carburant, et c'est ça, ce plan de relance, dans une France qui redémarre. Nous ne le ferons pas tout seuls. Vous savez, l'État ne peut pas tout et la puissance publique ne peut pas tout. Nous avons besoin de la confiance des ménages, nous avons besoin de la confiance des entreprises, nous avons de redémarrer ensemble.
Dans le projet de loi de finances 2021, vous annoncez la suppression de 150 millions d'euros de taxes. Vous voulez rendre l'impôt plus clair, plus lisible, plus compréhensible. C'est l'objet d'un petit livre que vous venez de publier qui s'appelle « La fabrique de l'impôt pour un consentement citoyen » publié aux éditions Alma. Aujourd'hui, vous avez l'impression que justement ce consentement n'existe plus ?
Je crois effectivement qu'il a été abîmé depuis de longues décennies parce que nous cumulons taxe après taxe, impôt après impôt, comme un réflexe pavlovien français, un système fiscal qui est devenu complètement illisible. Moi, le propos de mon livre, c'est de dire que la fiscalité, c'est ni bien ni mal, c'est nécessaire, ça permet de financer les services publics, ça permet de mieux redistribuer les richesses, ça permet d'inciter des comportements de consommateurs. Il y a plein de vertus à la fiscalité. Mais si elle est illisible, alors les gens ne s'y reconnaissent plus et perdent le consentement à l'impôt qui fait société. Et donc moi, ma priorité comme rapporteur du budget, c'est de supprimer ces petits impôts, ces petites taxes qui ne sont pas efficaces, qui ne sont même pas rentables pour l'État et qui font qu'effectivement les Français en ont marre d'avoir trop de petites taxes qui parfois ne connaissent même pas. Et vous savez, depuis le début du mandat, à mon actif et avec le gouvernement, on a supprimé plus d'une soixantaine de petites taxes, faut le rappeler, pour 700 millions d'euros rendus aux citoyens et aux entreprises, uniquement avec ce petit nettoyage fiscal.
Merci Laurent Saint-Martin, bonne journée.